VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Morgan Guériec et Eric Maniarakiza au micro. Bienvenue dans cette édition du vendredi 18 novembre 2016. Au sommaire ce soir...
À Kinshasa, l'opposition maintient la manifestation de samedi malgré l'interdiction par les autorités de toute manifestation à caractère politique.
6 morts dans 3 attentats suicides à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria.
Enquête au Mozambique sur l'explosion d'un camion-citerne qui a fait au moins 73 morts.
Fin à Marrakech de la 22e conférence de l'ONU sur le climat, sans progrès majeur.
Les sports et l'économie.
Juste après le journal.
République démocratique du Congo, l'opposition appelle à manifester demain samedi à Kinshasa et à Lubumbashi. Les autorités ont pourtant interdit toute manifestation politique. Déjà hier soir, 4 jeunes militants de la coalition de l'opposition ont été interpellés. Le point à Kinshasa avec Walter Nkoui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Étienne Tshisekedi et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement maintiennent les meetings ce samedi à Lubumbashi et Kinshasa. Il sera question, selon le Rassemblement, de donner le dernier avertissement. Des appels ont été multipliés et renouvelés aux sympathisants et militants des partis politiques membres de la plateforme dirigée par Étienne Tshisekedi. Les militants promettent répondre à cet appel alors que le maire de la ville de Lubumbashi, puis le gouverneur du Haut-Katanga ont interdit toute manifestation publique à Colorado. Politique. Les membres du rassemblement disent être surpris alors qu'il ne s'est pas encore passé une semaine depuis la manifestation tenue par les cadres de la majorité, sensibilisant la population sur l'accord du dialogue national. Cette politique des deux poids deux mesures n'a aucune raison d'être, lance un cadre du parti politique UDPS. Le même appel est lancé à Kinshasa. Le rassemblement maintient son meeting à la zone neutre entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement à Kinshasa, où Tshisekedi, qui a signé le communiqué d'appel à cette manifestation, promet s'adresser à la nation sur les questions brûlantes alors que l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas encore levé sa mesure interdisant toute manifestation publique à caractère politique sur l'ensemble de la province. Rappelons que dans un communiqué signé cet après-midi, le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabuya, a indiqué qu'une dizaine de militants de l'UDPS ont été arrêtés hier soir par les forces de l'ordre. Contacté, le service de sécurité ne confirme pas cette information.
Walter Nkoui de Top Congo FM à Kinshasa.
Et en RDC toujours, affaire Moïse Katumbi, les avocats de l'opposant demandent le dépaysement de cette affaire hors de l'ex-province du Katanga où le jugement avait eu lieu. Moïse Katumbi a été condamné, souvenez-vous, à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation d'immeubles par un tribunal de paix de Lubumbashi. Et ses avocats ont toujours rejeté ce jugement, faisant valoir des pressions exercées sur des juges.
Municipale au Mali, la campagne pour les élections locales s'achève aujourd'hui. Ce scrutin constamment repoussé depuis 2014 est finalement prévu dimanche. Faible engouement pour ces municipales en raison de la menace djihadiste et des appels au boycott de l'opposition. 15 des 703 communes du pays ne comportent pas de liste dans les régions de Kidal et Tessalit dans le nord-est du pays.
Journée sanglante à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. 3 attentats suicides ont fait 6 morts. Dont 4 kamikazes ce matin. Tel est le bilan annoncé par les forces de sécurité. Les 2 autres personnes tuées sont 2 membres des milices civiles qui défendent la ville aux côtés de l'armée.
Au Mozambique, les autorités cherchent à élucider les circonstances de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne qui a fait au moins 73 morts et 108 blessés. Les précisions de Tatiana Mousso.
Une commission d'enquête a été mise en place pour déterminer les causes du drame qui s'est produit jeudi en zone rurale. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales, le camion effectuait la liaison entre le port mozambicain de Beira et le Malawi et s'est arrêté avant la frontière pour vendre illégalement du combustible, une pratique fréquente au Mozambique. Jeudi soir, un bilan des autorités provinciales communiqué par Radio Mozambique faisait état de 73 victimes. Le bilan pourrait être revu à la hausse, a estimé Maria José Torcida, l'administratrice du district où s'est produite la catastrophe. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de samedi. Selon les autorités mozambicaines, 108 personnes, dont des femmes enceintes et des enfants, ont été blessées et 96 sont toujours hospitalisées.
Zimbabwe, au moins 6 militants de l'opposition, dont le frère de l'ex-journaliste Itai Dzamara, porté disparu depuis 2015, ont été frappés aujourd'hui. C'est du moins ce qu'affirme un activiste. Ce passage à tabac précède des manifestations antigouvernementales qui n'ont pas tellement mobilisé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin au Maroc de la 22e conférence sur le climat. Les échanges ont été constructifs, mais n'ont pas abouti à des résultats spectaculaires. Les accords de Paris avaient fixé les objectifs à atteindre. La rencontre de Marrakech devait les concrétiser. Le point avec Arzuma Compaoré.
Comment s'assurer que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront bien atteints en 2020? Comment préparer le rendez-vous de 2018 pour un premier bilan? Ce sont là autant de questions abordées par les négociateurs. Après le Royaume-Uni jeudi, 111 pays ont ratifié l'accord de Paris avec plus de 190 pays autour de la table. Les pays en développement mettent en avant la dernière évaluation onusienne qui estime les besoins pour les seules actions d'adaptation entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. Les pays développés se sont engagés à aider pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et aider à protéger des impacts du réchauffement, comme les sécheresses, inondations, hausse du niveau des océans. Une aide qui sera financière, mais aussi en termes de transfert de technologie et d'expertise. Dans la proclamation de Marrakech, publiée jeudi soir et endossée par tous les États, figure un appel à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. Vendredi, les îles Fidji, petit pays particulièrement exposé au changement climatique, ont annoncé qu'elles vont accueillir la COP23 fin 2017.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a décidé de confier le ministère de la Justice au sénateur Jeff Sessions. Il a également choisi le patron de la CIA, l'agence américaine de renseignement, et son conseiller à la sécurité nationale. Les précisions de John Lindon.
Jeff Sessions, 69 ans, est très remonté contre l'immigration illégale, l'un des principaux thèmes de campagne de M. Trump, qui a promis d'expulser les 11 millions de clandestins. Natif du sud des États-Unis, il a représenté l'Alabama au Sénat à partir de 1997 et s'y est illustré durant les présidences de George W. Bush et Barack Obama, en s'opposant notamment à plusieurs projets de régularisation des sans-papiers. Il a provoqué une controverse pour des propos racistes tenus il y a plusieurs décennies. Les médias américains ont aussi indiqué que la CIA allait être pilotée par Mike Pompeo, 52 ans. Il a fait partie de la commission d'enquête du Congrès sur l'attaque de la mission américaine à Benghazi en 2012. Le poste de conseiller à la sécurité nationale va revenir au général à la retraite Michael Flynn, 58 ans. Il avait dirigé le service des renseignements militaires entre 2012 et 2014. Mitt Romney, républicain modéré et candidat malheureux face à Barack Obama en 2012, devrait être reçu par Donald Trump ce week-end.
John Lindon. Les principaux dirigeants européens et le président américain Barack Obama ont adressé aujourd'hui à Berlin une mise en garde à Donald Trump, mais sans le nommer directement. À l'issue de leur ultime entretien avec M. Obama, la chancelière allemande Angela Merkel, ses homologues britanniques Theresa May, espagnol Mariano Rajoy, italien Matteo Renzi et français François Hollande ont appelé au maintien de la coopération dans l'OTAN malgré l'isolationnisme que veut impulser le président américain élu. Ils se sont également dit unanimes pour maintenir les sanctions contre la Russie.
Au Yémen, plus de 20 personnes ont été tuées à la périphérie de la ville de Taïz. D'intenses combats entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis se sont poursuivis aujourd'hui, malgré la trêve annoncée par le secrétaire d'État américain John Kerry et qui devait entrer en vigueur hier.
Les habitants des quartiers rebelles d'Alep étaient terrés chez eux aujourd'hui par peur des raids aériens. Des bombardements d'artillerie les plus violents depuis 2 ans se sont abattus dans un bruit terrifiant sur plusieurs quartiers rebelles.
En Grèce, un réfugié syrien a été grièvement blessé à la tête aujourd'hui par un jet de pierre dans un camp de Souda. Mercredi et jeudi soir, des inconnus avaient déjà lancé des pierres et des engins incendiaires depuis le promontoire qui surmonte le camp. Ils ont détruit des tentes abritant au total une centaine et des 800 résidents.
Plusieurs officiers turcs de l'OTAN ont demandé l'asile dans des pays membres de l'alliance où ils servaient. C'est à la suite des purges menées après la tentative de coup d'État en Turquie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé aujourd'hui que le dossier de ces demandes sera traité et décidé dans le pays de l'OTAN où les militaires turcs ont demandé l'asile.
Et toujours en Turquie, le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression a estimé aujourd'hui que les menaces sécuritaires pesant sur ce pays ne donnaient pas de carte blanche aux autorités pour museler les libertés. Dans une conférence de presse à Ankara, David Kay a dressé un tableau sombre.
La participation du Pakistan à la guerre contre le terrorisme lui a coûté 118 milliards de dollars en pertes directes et indirectes en 14 ans, selon une étude de la Banque centrale. La croissance économique, tout comme le développement du secteur social, ont été sévèrement handicapés à cause du terrorisme.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Centrafrique a obtenu hier à Bruxelles une promesse d'aide de 2,2 milliards de dollars sur 3 ans, dont 500 millions de la Banque mondiale et 450 millions de l'Union européenne. La somme aidera à financer notamment la restructuration de l'armée, assurer des services sociaux de base et relancer l'économie. Ce vendredi s'achève à Accra un séminaire organisé par l'initiative sur les politiques foncières. 50 chefs traditionnels africains ont été sensibilisés sur les risques et opportunités d'investissement foncier à grande échelle et dotés des principes clés pour la négociation des offres d'investissement foncier durable et bénéfique aux communautés et aux peuples africains. Et ce 18 novembre est la journée africaine de la statistique. Chaque pays sensibilise annuellement le public sur l'importance des statistiques au niveau socio-économique. Le thème cette année est le renforcement des statistiques économiques au service de l'intégration régionale, de la transformation structurelle et du développement durable.
Sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Et cinquième étape du Tour cycliste du Rwanda.
Les 125 km entre Mwanga et Musanze ont été remportés par l'Érythréen Eyob Metkel. Il devance ses trois compagnons d'échappée sur la ligne d'arrivée à Musanze. Le peloton est à 46 secondes derrière. Au classement général, l'Érythréen avec sa victoire remonte et prend la deuxième place. Le Rwandais Valence Ndayisenga, toujours leader. À suivre samedi, Morgane, la sixième étape entre Musanze et Kigali.
Ouverture de la CAN féminine 2016, demain au Cameroun.
Le match d'ouverture à Yaoundé pour les Camerounaises qui accueillent les Égyptiennes. Les Sud-Africaines affronteront les Zimbabwéennes. Et dimanche, dans l'autre groupe à Limbé, les Nigérianes favorites contre les Maliennes et le Ghana face au Kenya.
Tennis, Masters de Londres. Andy Murray qualifié pour les demi-finales.
Oui, Andy Murray a assuré sa qualification en battant en 2-7, 6-4, 6-2, le Suisse Stan Wawrinka lors du dernier match de poule. Vainqueur de ses deux premières parties, l'Écossais n'avait besoin que d'un set pour valider sa qualification et surtout continuer à défendre sa place de numéro 1 mondial. Les demi-finales opposeront donc demain Murray contre Milos Raonic, puis Novak Djokovic à Nishikori.
Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Bulls de Chicago ont signé leur 4e victoire consécutive en dominant Utah 85-77. James Harden a permis à Houston de rebondir à Portland, victoire 126-109. Miami a retrouvé quelques couleurs en s'imposant à domicile contre Milwaukee 96-73. Et puis les Knicks de New York qui n'y arrivent toujours pas. Derrick Rose a pourtant marqué 27 points, mais ils se sont inclinés à Washington 112-119.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Gayek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
Oui, en N'Djamena, deux présidents de partis d'opposition interpellés hier avec une trentaine de militants sont toujours en détention suite à une nouvelle interdiction de meeting du FONAC. Des incidents ont éclaté jeudi après-midi quand les militants ont voulu marcher vers le stade Abena. Après la réunion au siège du parti du chef de file de l'opposition, Salé Kebzabou. Dans la matinée, les députés de la majorité présidentielle avaient boycotté une séance de débat sur une motion de censure. Nathalie Barge a joint Ahmad Mahama Al-Abo, coordonnateur adjoint du FONAC.
Cet après-midi, on a été pour leur rendre une visite et voir dans quel état ils étaient. On nous a empêchés de les voir. Selon nos informations, ils ne sont pas peut-être très exacts, mais aux environs de 30 personnes sont arrêtées. Il y a deux présidents du parti, le parti RPR et le parti AFP.
Donc Mahamat Bar Béchir du RPR.
Oui, du RPR et M. Gapili du AFP.
Quelles explications vous a-t-on données pour ce refus?
Non, ils n'ont absolument donné aucune explication. Ils nous demandent de prendre une autorisation auprès du procureur de la République avant d'aller les voir. On se demande, sont-ils inculpés? Pourquoi faut-il une autorisation du procureur de la République? On ne sait pas très bien. Nous allons nous adresser à ces autorités pour savoir quel est le motif de leur arrestation. C'est des gens qui n'ont absolument rien fait. On s'est réunis dans le siège d'un parti, à l'intérieur, n'est-ce pas, du siège d'un parti. Il y a eu une déclaration qui a été faite. Et les gens rentraient chez eux et on les a gazés, rattrapés, frappés, arrêtés.
Alors, quelle suite a été donnée à la motion de censure?
Même si l'opposition a déposé une motion de censure, elle n'a absolument aucune chance de passer parce que si la majorité vote contre la motion de censure, c'est fait. Mais apparemment, il nous semble que le pouvoir a une porte bleue de débattre de tout ce qui se passe dans le pays parce que le pays est complètement à l'arrêt. Les écoles sont fermées, les dispensaires sont fermés, la magistrature est en grève, toute l'administration est en arrêt. Le pays est en banqueroute totale. Les gens veulent savoir où est parti l'argent du pays, qu'est-ce que le gouvernement en a fait. Et ils ne veulent pas que un tel débat puisse avoir lieu pour qu'on explique au peuple tchadien qu'est-ce qu'on a fait de l'argent du pays.
Mais pourquoi les députés de la majorité ont-ils refusé le débat à partir du moment où ils peuvent voter à bulletin secret pour censurer ou non le gouvernement?
Écoutez, je continue à poser cette question comme autant que vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi ont-ils peur, pourquoi ont-ils refusé qu'il y ait débat.
Et c'est pour quand la nouvelle séance?
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit la chose suivante. Si le quorum n'est pas atteint, on reporte la séance à une prochaine fois. Et si, pour les mêmes raisons, le quorum n'est pas atteint, à la troisième fois, quel que soit le nombre de personnes présentes, la séance reste ouverte et valable.
Mais est-ce que les députés ont déjà fixé la deuxième séance ou pas?
Non, je ne suis pas au courant, apparemment non.
Est-ce que vous allez toujours organiser la journée Ville Morte mardi?
Oui, absolument. Jeudi, oui, mardi le 22.
Arma Mahamat Al-Abo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, joint à N'Djamena.
Fin de campagne électorale sous haute tension au Mali. Les partis de l'opposition dénoncent une fraude planifiée par le parti au pouvoir. Cependant, certaines formations politiques continuent de battre campagne pour convaincre les citoyens. Deux semaines de campagne n'ont pas drainé les foules. L'insécurité inquiète beaucoup plus les populations. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La campagne pour l'élection municipale du dimanche 20 novembre 2016 prend fin ce vendredi 18 novembre à 0h. Déjà, les partis politiques de l'opposition sont dans une logique de contestation des résultats du scrutin. Pour eux, la nouvelle loi électorale de 2016 a été remplacée par celle de 2006 à la dernière minute. Maître Boakar Karamogo Koulibaly, membre de l'opposition.
La loi électorale numéro 06-044 en date du 4 septembre 2006 modifié a été abrogé. Et voilà qu'à la date du 14 novembre 2016, moins d'une semaine avant le scrutin, le ministre de l'administration territoriale, par une lettre laconique, informe la classe politique de la poursuite du processus électoral sur la base de la loi abrogée. Sur le terrain,
Tous les acteurs engagés dans le processus électoral se sont conformés à la nouvelle loi électorale.
Autre fait qui inquiète les partis politiques de l'opposition, c'est la mauvaise organisation même des scrutins sur le plan matériel.
Il nous est revenu de constater que des spécimens de bulletins autres que ceux délivrés par l'administration, ainsi que des bulletins de vote, ont été découverts dans plusieurs circonscriptions électorales du pays, notamment à Djouila, dans les communes 4, 5 et 6 de Bamako. Par ailleurs, en commune 2 du district de Bamako, nos responsables et militants ont attesté que la liste des présidents de bureaux de vote et des assesseurs comporte uniquement les jeunes de l'alliance RPM-CODEM, toute chose qui affecte gravement la transparence et la sincérité du scrutin dans cette localité.
L'opposition est dans la contestation. D'autres formations politiques tentent de convaincre leurs militants, à l'image du maire de Pelengana dans la région de Ségou. Djabaté Mariam Bamba est la tête de liste du parti IDD.
La commune de Pelengana comporte 28 villages. Il y a 32 000 électeurs dans la commune de Pelengana. Je compte que cette population même aille vers les urnes pour voter massivement pour le parti IDD. Bon, le nouveau programme, c'est d'abord toujours l'assainissement. Après un cadre de vie bien assaini, il y a l'éducation, la santé. Et puis cette fois-ci, je ne vais pas oublier l'artisanat et la culture parce que je vais inventorier tout le patrimoine culturel de la commune de Pelengana.
Si dans certaines communes, les activités de la campagne se sont bien déroulées, tel n'est pas le cas dans d'autres localités au centre du pays. Maître Boakar Karamogo Koulibaly de l'IRD.
La campagne électorale a été lancée sur fond d'insécurité généralisée sur presque toute l'étendue du territoire national. Les populations appelées à se déplacer pour battre campagne sont partagées entre angoisse, peur et désolation face à l'impuissance d'un gouvernement qui navigue à vue. Hier, le directeur de campagne de la liste PSP de Douanza a été assassiné alors qu'il était en campagne. Avant-hier, mardi, un militant de l'URD, ami du député URD Amadou Maïga, élu à Douanza, a été assassiné à Douanza. Sa dépouille déposée devant sa porte.
Après deux semaines de campagne, force est de constater que les Maliens ne veulent pas aller voter. Ce qui veut dire que le taux de participation ne sera pas à hauteur des attentes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Descente maintenant sur Bangui. Satisfaction en Centrafrique à l'annonce des bailleurs de fonds hier à Bruxelles pour soutenir le pays. Le gouvernement a reçu la promesse de plus de 2 milliards de dollars pour soutenir son plan de relèvement. À Bangui, les précisions de Freeman Sipila.
Sur 1,684 milliards de dollars attendus pour les trois prochaines années dans le programme d'urgence présenté par Faustin Archange-Touadéra, le président centrafricain, la communauté internationale a annoncé sa contribution à hauteur de 2,268 milliards de dollars, soit plus de 1 000 milliards de francs CFA. À Bangui, la satisfaction est grande dans les rues.
C'est un sentiment de satisfaction. D'abord, on doit s'en réjouir parce que le peuple centrafricain a tellement souffert de cette crise et je pense que cette promesse, ça va être comme bouffée d'oxygène à la population.
Quand j'ai entendu ça, j'ai sauté de joie parce que la promesse a dépassé nos attentes.
Il y a un adage qui dit « mieux vaut peu que rien ». Nous ne pouvons que vraiment dire un grand merci et manifester notre reconnaissance par rapport aux pays donateurs qui ont vu le problème, leurs difficultés par rapport à la situation actuelle et qui se sont donné corps et âme pour un autre pays qui n'est pas le leur.
Pour la société civile, la République centrafricaine est sortie gagnante de cette rencontre avec les bailleurs dans la capitale belge. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, se réjouit de l'avancée de la démocratie en République centrafricaine.
Nous sommes très heureux par rapport à l'avancée de la démocratie en République centrafricaine. Parce que vous savez que quand le président Touadéra est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens disaient qu'il faut effacer le tableau. Il n'y avait plus le principe de la succession d'État. Donc tout ce qui était fait avant, pendant la transition, c'était mauvais, il faut l'enlever. Et le président est revenu sur cette position en disant que je prends en compte les recommandations du Forum national de Bangui. On peut dire que c'est des promesses. Mais nous pensons qu'il vaut mieux avoir ces promesses-là pour être réalisées que de ne pas avoir de promesses du tout.
Dans un communiqué, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a aussi exprimé sa gratitude à l'endroit de la communauté internationale, de nouveau au chevet du pays. Satisfait de la mobilisation des partenaires au développement, le président Faustin Archange-Touadéra salue la bonne volonté des bailleurs.
Aujourd'hui, je suis satisfait de la mobilisation sur les 3 ans que nous avons proposés sur les projets prioritaires. Les partenaires ont répondu présents. Mais je voudrais dire que c'est tous les Centrafricains, puisque c'est la République centrafricaine qui, comme je l'avais dit, dans un processus participatif, disons, a défini ses projets prioritaires. Et donc je suis satisfait et je voudrais remercier les pays amis qui ont écouté l'appel du peuple centrafricain.
La table ronde de Bruxelles pour la République centrafricaine a suscité un grand espoir dans tout le pays. Le plan de relèvement présenté aux bailleurs de fonds se chiffre à 3,161 milliards de dollars américains sur 5 ans. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
À Marrakech, la COP22 prend fin aujourd'hui. Les pays développés ont promis aux pays en développement 100 milliards de dollars par an pour lutter contre le réchauffement climatique d'ici 2020. Y a-t-il eu des progrès par rapport à l'accord de Paris de 2015 ? Nani Talani, adjoint à Marrakech au Maroc, Yassine Chaber, journaliste du quotidien marocain, les inspirations économiques.
En gros, donc, il n'y avait pas de décision très importante par rapport aux questions, la question du financement, des mécanismes, etc. Mais il y a une seule information qui est intéressante par rapport au financement, c'est que les deux tiers seront mobilisés par le secteur privé et l'autre tiers, 100 milliards qui ont été programmés par les pays riches, donc par le secteur privé. Et il y avait également quelques initiatives qui ont été lancées au cours de cette COP22, par exemple la protection des tourbières au niveau de l'Indonésie et d'autres pays. Il y a également la création d'un réseau de centres de compétences climatiques et d'autres initiatives. Mais pour le moment, il faut attendre les annonces qui sont jusqu'à maintenant. Ils ne répondent pas encore aux grandes problématiques.
Comment s'assurer que l'argent promis aux pays en développement pour la lutte contre le changement climatique sera effectivement donné?
De toute façon, 100 milliards de dollars a été déjà programmé et prévu dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, c'est pas l'argent qui pose problème, mais c'est comment on va concrétiser l'objectif de réduire le réchauffement climatique. Également, les pays en voie de développement doivent présenter des projets bancaires pour qu'ils soient financés par les pays du Nord, surtout en termes d'adaptation. Parce que c'est l'adaptation qui pose problème et non pas l'atténuation.
À Marrakech, y a-t-il eu des progrès par rapport à la COP21 de Paris?
Je pense qu'au niveau de Marrakech, je pense qu'il n'y avait pas de blocage. Les négociations ont été marquées par un aspect un peu technique, parce que là, l'accord de Paris, on peut qualifier d'une loi, mais il doit y avoir des décrets d'application. Donc, on a défini les grands objectifs au niveau de l'accord de Paris, mais au niveau de Marrakech, il faut définir les détails, c'est-à-dire le comment et le pourquoi. Donc, la présidence marocaine, il a encore une année devant elle pour régler l'ensemble des points en fonction, bien sûr, des négociations et des conclusions des négociations d'aujourd'hui.
Voilà, c'était Yassine Chaber, journaliste du quotidien marocain, Les Inspirations économiques.
Voilà, c'était pour terminer en beauté. C'est la fin de cette édition. Georges et Léonard Sagnon a dirigé la mise en onde, assisté à la console par John Dredren. Présentation, Morgane Guiriec et Eric Manilakis.
Merci à tous nos auditeurs. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci également à nos plus de 2 millions de fans sur Facebook. Continuez à nous envoyer vos commentaires. Bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.